je m'appelle Joëlle et j'anime ce podcast, Un instant innovant. Et je vous présente tout de suite mes co-animatrices pour cet épisode, Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour Joëlle.
Sarah qui fait partie de la belle équipe de Via Conseil.
Tout à fait.
Et Caroline, mon associée de chez Via Conseil. Bonjour Caro.
Salut Joëlle.
Alors aujourd'hui, on a envie de vous parler de la rétroaction et de l'évaluation de la performance. On sait, je vais juste vous mentionner d'entrée de jeu que ça se peut que vous entendiez des petits bruits. On enregistre en direct de chez Sarah, qui nous accueille gentiment avec son conjoint qui est un excellent consultant en podcast.
Ben, alors, je peux le dire, j'ai le droit de le dire.
C'est grâce à lui qu'on
c'est
a...
C'est Charles Thompson-Leduc, pour ceux qui le connaissent de d'autres podcasts. Voilà, t'es plugué.
Qui est tellement excellent. Alors voilà, les petits bruits de fond sont maintenant mis en contexte. Donc aujourd'hui, on vous parle d'évaluation de performance, de rétroaction. On sait à quel point ça a été remis en question dans les dernières années. Beaucoup d'organisations qui ont décidé qu'ils jetaient carrément aux poubelles leur processus d'évaluation de la performance, qu'ils n'y voyaient plus d'intérêt avec tout le temps là, pour vrai qu'on investit, autant du côté des gestionnaires que du côté des employés dans ce processus-là. On se demande vraiment s'il y a un retour sur investissement, sachant que en tant que gestionnaire, y a-t-il des gestionnaires qui aiment vraiment, vraiment ça pour vrai, remplir les formulaires d'évaluation de la performance? J'en connais pas beaucoup, en tout cas. Et des employés qui apprécient tant que ça aller s'asseoir pour recevoir le feedback. Le retour, en tout cas, semblait pas vraiment intéressant. On se pose la question aujourd'hui, quelques années plus tard, après ce courant-là de remise en question, où est-ce qu'on en est?
Ça l'a fait une tollée, là, ce courant-là. Puis les organisations, c'est comme si c'est quelque chose qui était tellement sûr depuis longtemps. Là, c'était important de gérer la performance, de donner de la rétroaction, de faire le lien avec le salaire. Là, ça, c'est venu bouleverser les idées préconçues. Puis en tout cas, moi, je travaillais dans une grande firme de consultants, puis c'est pas tout le monde qui s'entendait sur la direction à prendre. Je sais pas, vous, de votre côté, quelle était votre opinion, mais c'était
un peu mitigé, un peu mitigé. Avant, quand j'étais en entreprise, j'avais une drôle de position. J'étais directrice RH. C'est moi qui mettais en place ces bonnes pratiques-là, entre guillemets, où on devait justement évaluer la performance avec un beau formulaire, un beau processus. On formait les gestionnaires. Tout le monde détestait ça, avoir à le faire. On avait beau essayer de rendre ça le plus léger, convivial possible, ça restait quelque chose d'assez lourd. Donc, je peux pas dire que j'appréciais, moi aussi, j'étais gestionnaire. Je le mettais en place, mais j'avais à le compléter aussi. Puis ça me plaisait pas vraiment, là. Donc, cette remise en question-là, je pense, vraiment partait d'idées très légitimes qu'on n'est pas sûr que ça vaut la peine. Tu sais.
Ah ouais, non, je pense qu'on dirait que c'est comme à la fois un mal nécessaire et un incontournable. On dirait qu'on s'en sort pas. C'est une question, je pense, qui traverse les générations, pour presque dire. Puis moi, souvent, ce qui me fascine, c'est à quel point ce processus-là, qui est à peu près la seule occasion formelle où un gestionnaire et un employé s'assoient ensemble puis se parlent, malheureusement, mais où à laquelle on accroche à ce processus-là une tonne d'objectifs. Parce que quand on pose la question aux gestionnaires, aux employés, on vise une multitude de choses avec ce processus-là, à la fois, évidemment, de la rétroaction, mais aussi... Identifier la relève, se développer.
Développer les compétences.
Exactement. Puis en plus de rattacher tout ça souvent à la rémunération. Donc, c'est sûr qu'en ayant tous ces objectifs-là, c'est difficile de bien les remplir parce que...
Il y en a trop.
Puis les besoins des employés sont très différents aussi. Donc, les attentes et les besoins. Puis on a souvent un seul processus, un seul formulaire pour l'ensemble de l'organisation. Puis souvent, les gestionnaires vont le faire beaucoup, je pense. En tout cas, je sais pas toi, là. Généralement, moi, j'ai l'impression de le voir un peu comme un cadeau que je fais à mes employés, de prendre ce temps-là, de m'arrêter, de penser à eux, de leur donner du temps. Puis il y a des employés qui en ont vraiment besoin, j'ai l'impression. Il y a des gens qui qui pour qui c'est essentiel, mais il y en a pour qui c'est pas non plus aussi important. Donc, on se retrouve à le faire pour tout le monde, de la même façon. Quand les besoins, des fois, sont très différents d'un employé à l'autre.
Oui. Donc, ça a été remis en question. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est toujours présent, hein, parce que nos clients nous demandent toujours d'élaborer des processus de gestion de la performance, de les accompagner à mettre en place les bons outils. Il y a quand même eu des changements, par contre, dans leur demande. Hein, on veut moins mettre en place l'évaluation de la performance annuelle avec un outil très élaboré.
Ils vont vouloir des codes, des pourcentages. Exactement. On veut s'éloigner de, sais-tu, 4,5% que tu as eu ou, dans le fond, ça va bien. Exactement. On veut trancher. T'as raison, ça a évolué.
Oui, mais ils vont nous demander des choses un peu. En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de les aider à actualiser le processus. Donc, nous, on s'est questionné un peu à savoir qu'est-ce qui fonctionnait plus avec l'évaluation telle que présentée dans le passé, finalement, puis qu'est-ce qui pourrait être des meilleures pratiques à mettre en place pour que ça soit plus performant.
Oui, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression qu'autant on a comme une volonté de simplifier le processus parce qu'on se rend compte que ça prend beaucoup de temps. Notamment, moi, je rencontre des gestionnaires qui ont plusieurs employés. C'est vraiment un gros investissement en temps. Mais en même temps, on dirait qu'on cherche à évaluer de plus en plus de choses. Donc, avant, on évaluait le poste, les tâches. Est-ce que l'employé est ponctuel? Il fait bien son travail? La qualité du travail est là? Maintenant, on a rajouté souvent des objectifs, donc des petits projets, des accomplissements qu'on doit déterminer aussi à chaque année pour chaque employé.
Pour que ça soit plus concret. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pas d'alourdir, mais c'est d'aller dans des trucs concrets aussi.
C'est ça. Parce qu'est-ce qu'on évalue le travail en tant que tel ou est-ce qu'on évalue la contribution puis l'impact puis la valeur ajoutée? Puis là, souvent, ben de plus en plus, on s'en va vers une évaluation des compétences parce qu'on se dit au-delà du travail puis au-delà des résultats, dans quel contexte c'est fait. Donc là, on va venir rajouter toutes sortes de compétences qui sont tout à fait justifiées.
Dans le but de développer les gens aussi.
Dans
le
but de développer des gens, de penser à la relève. Mais là, on finit par allonger un peu la discussion, allonger le formulaire. Donc, moi, parfois, je me questionne, tu sais, est-ce qu'on essaye de faire trop de choses, tu sais, dans un seul et même processus, tu sais? Est-ce que quelque part, puis même des fois, certains vont utiliser ça pour gérer la performance des employés aussi.
Tu veux dire quand il y a un problème.
Oui, les enjeux de performance. Ouais. Est-ce que c'est le bon outil, le bon processus pour gérer de la performance? Est-ce qu'on devrait parler de développement des compétences ou de développement de la carrière quand quelqu'un n'a pas cet intérêt-là?
Ou est plus rendu là? Tu sais, c'est, à un moment donné, ça revient à ce que tu disais d'avoir le même formulaire pour tout le monde. Puis, tu sais, il y a la notion de qui a quelle aspiration, puis aussi à quel moment de sa vie. C'est une même personne, c'est pas toujours un cycle comme t'arrives, puis là, tu veux grandir jusqu'à un certain point, puis après, t'es proche de la carrière. Tu sais, des fois, peut-être pour un moment de ta vie, tu viens d'avoir des jeunes enfants, t'es peut-être moins dans une démarche de vouloir, tu sais, je sais pas, avoir une promotion. Ouais, c'est exactement, mais ça veut pas dire que ça reviendra pas. Fait que tu sais, c'est sûr que si on se laisse pas cette flexibilité-là, puis qu'on a genre 5-6 pages de trucs à cocher puis à remplir, je pense que c'est là aussi que c'est dangereux de passer vraiment à côté de la discussion là, qu'on veut avoir.
Fait que le sur-mesure, je pense que c'est un peu... ce qu'on est en train de dire, il faut s'assurer de ne pas avoir un « one size fit all » pour toute l'organisation, mais encore là, il faut s'assurer aussi de faire du sur-mesure pour un même individu à certains moments dans sa vie. Mais comment on s'y prend? Comment on fait ça? Parce que c'est pas simple de faire du sur-mesure d'un département à l'autre, d'un gestionnaire à l'autre, un gestionnaire qui a 50 employés, 50 livreurs, par exemple, à superviser, va pas avoir le même besoin que le directeur des finances qui supervise 3 personnes. Donc, le sur-mesure à l'intérieur d'une même organisation pour des besoins différents dans les départements. Puis après ça, si on veut l'adapter à chaque individu, même dans un même département, tu n'auras pas les mêmes besoins d'un individu à l'autre.
Flexibilité. Tu sais, on dirait que spontanément, je me dirais, un, il y a l'histoire de est-ce qu'on veut tout rentrer dans le même processus. Mm-hmm. Tu sais, gérer la performance, moi, j'ai l'impression que ça n'a pas sa place dans ce genre de processus-là, là, des problèmes de performance. À quelque part, tout le monde devrait bien faire son travail puis être bon. Après, tu sais, s'il y a des problèmes avec ça, c'est un, j'ai l'impression que c'est un autre sujet, alors que souvent, on le met dans le même pot. Mais est-ce que c'est pas une question de dire, regarde, on va se faire un formulaire là, qui, genre, une page juste pour guider la discussion, puis après, le gestionnaire connaît ses gens. Tu sais, c'est pas nécessairement tout sur ses épaules non plus. Tu sais, des fois, c'est de dire, hey, toi, t'aimerais ça apprendre telle affaire, mais je vais te mettre en contact avec le gestionnaire de ce département-là. Tu sais, je...
Moi, j'ai des fois, ce que j'ai l'impression, puis de ce que j'entends, on dirait que les employés pour qui c'est important, puis pour qui on a, les employés qui ont soif de se développer, ce processus-là peut, en tout cas, peut-être pas toujours le résultat ou la cote à la fin, mais le processus en soi est bénéfique, puis il est souhaité. Mais souvent, on se retrouve avec certains postes ou certains types d'employés qui peuvent être en fin de carrière ou qui occupent la même fonction depuis de multiples années, à qui on essaie de pousser ce formulaire-là. Puis quelque part...
ça fait 4 ans qu'on écrit la même affaire. Là.
Exactement. Souvent, c'est ce que j'entends. C'est redondant. On remet la même chose à chaque année. Souvent, les compétences, ça évolue pas tant que ça non plus annuellement. Donc, tu sais, quelque part, nos forces restent généralement pas mal nos forces sur une longue période de temps. Puis à l'inverse, nos angles morts, disons, vont toujours rester à améliorer. Fait que souvent, on repart la même cassette annuellement, ce qui peut être des fois un peu long. Puis même au niveau des objectifs, tu sais, moi, j'entends souvent, les gestionnaires vont me dire, ben, comment tu veux que je fixe des objectifs à quelqu'un, par exemple, qui va occuper des postes plus administratifs ou... moi, je pense qu'il y a toujours moyen d'en fixer, mais est-ce que cette personne-là a cet intérêt-là de relever des nouveaux défis ou de pousser davantage ses compétences ou de se renouveler ou d'innover. Fait que quelque part, est-ce que ça devrait être est-ce que c'est une obligation que d'avoir des objectifs? Est-ce que le statu quo, tu sais, un employé qui est performant puis qui fonctionne bien dans son rôle, est-ce que c'est pas parfois suffisant? Est-ce que c'est nécessaire de l'emmener plus loin?
Là, on dirait que dans ma tête, ça fait, il y a une différence entre objectif puis truc à améliorer. Tu sais, parce que là, il y a la notion de sens là, à laquelle on revient souvent. J'ai l'impression que c'est important d'avoir des objectifs, mais ça veut pas dire que tu les atteins pas déjà depuis quelques années ou qu'ils vont évoluer. Souvent, ce qu'on essaie de faire, c'est bon, là, cette année, tu vas avoir l'objectif de faire tel projet ou d'améliorer de tant de pourcents cette tâche-là. Puis là, ça revient à ta question, est-ce que c'est nécessaire? Puis c'est une bonne question, là.
Ouais, puis souvent, même au-delà de ça... souvent, on fixe ces objectifs-là en début d'année en sachant pas trop ce qui va se passer au restant de l'année. Puis, bien souvent, on va arriver au milieu de l'année ou à la fin de l'année, puis la personne n'aura peut-être pas nécessairement accompli l'ensemble de ses objectifs parce que ça va avoir, le contexte va avoir évolué, parce qu'il y a d'autres priorités qui sont venues s'insérer. Fait qu'il y a comme, quelque part, on dirait qu'on n'a comme pas le choix ou on peut pas se contenter de juste rester où on est aujourd'hui. Fait qu'on trouve à travers ces objectifs-là une façon de venir se dépasser.
C'est intéressant cet aspect-là, puis le fait de toujours s'attendre à ce que les gens se dépassent d'année en année, tu sais, c'est un peu, ça revient un peu à ce que tu disais. Est-ce qu'un employé qui a un rendement satisfaisant, mais qui est content, qui n'a pas nécessairement besoin de continuer à progresser, est-ce que c'est correct de s'attendre à ce que il continue à juste bien performer comme ça, ou on doit absolument s'attendre à ce que il continue à se dépasser, à se surpasser tout le temps, à cette fameuse recherche d'excellence tout le temps, de pousser la performance à tout prix? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup remis en question puis un peu dans l'air ces temps-ci.
Mais c'est là où j'ai l'impression que, puis bon, c'est peut-être un rêve fou, mais parfois je me dis, si on n'avait pas la notion de rémunération, des fois qui est rattachée ou quelque part, on n'a comme pas le choix de passer à travers ce processus-là pour être capable de donner une coque et par conséquent, une augmentation de salaire. Moi, des fois, je me dis, ben pourquoi c'est pas volontaire? Tu sais, quelque part, l'employé qui n'a pas cet intérêt-là, qui n'a pas nécessairement besoin de s'asseoir avec son gestionnaire ou de se renouveler ou de développer ses compétences, bien peut-être que le gestionnaire peut trouver d'autres façons de le reconnaître, aller luncher avec lui, peu importe, une fois par année. Je pense que le contact est important. Mais est-ce que ce serait obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde de passer à travers le processus ou quelque part, ça a une valeur ajoutée seulement pour ceux qui y croient.
Qui veulent pousser, se développer davantage et performer.
Tu parlais de la notion de la rémunération. Moi, j'ai eu des fois des clients qui nous contactaient pour faire des projets parce qu'on arrivait en fin d'année puis que c'était dans leurs objectifs de début d'année. Pas parce que c'était un bon moment pour mettre quelque chose en place, pas parce que le contexte organisationnel le demandait, mais parce qu'ils voulaient avoir leur boni à la fin de l'année. Mmh. Fait que j'ai l'impression que...
Ouais, ça crée toutes sortes d'effets pervers, hein, de lier l'atteinte des objectifs à la rémunération d'une certaine façon. Si ça, il n'y avait pas de sens à tout ça ou il n'y avait pas lieu d'avoir ces objectifs-là au début
mais
de l'année.
Mais ce n'est pas de la motivation. Mmh. On parle souvent, mettons, dans la motivation, tu as de la motivation intrinsèque, mmh, qui est le sens, là, finalement, le pourquoi on fait les choses. J'ai envie de le faire parce que je crois à ce projet-là ou parce que j'ai envie.
À la pertinence, exactement. À la valeur ajoutée, mmh, ouais, du projet.
Parce que je veux une augmentation. Mmh. Ouais.
L'autre élément aussi que je vois, c'est que comme on n'a pas le choix, puis il y en a même qui vont en avoir un 3, tu sais, 3 ou 5 absolument. Mais là, on vient absolument indiquer des objectifs, puis chacun met ses propres objectifs. Puis très rarement, je vois les différents départements ou les différents groupes partager leurs objectifs les uns par rapport aux autres. Mm-hmm. Fait que souvent, chacun a ses objectifs, mais il n'y a personne qui connaît les objectifs des autres. Il y a peut-être même
des contradictions,
ou est-ce que globalement, comme organisation, on est en mesure de livrer l'ensemble de ces objectifs-là? C'est pas toujours, la réponse n'est pas toujours évidente. Souvent, ben, on se fixe des objectifs à nous, mais en même temps, on a besoin de la contribution des fois de d'autres personnes qui, indirectement, sans le savoir, sont impliquées dans notre propre objectif. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de parfois un peu pervers là, dans ce ou en tout cas qui ne nous, ouais, amène pas toujours à atteindre le bon résultat. Moi, la façon que je le vois, l'objectif, une façon que je pense qui peut être intéressante, c'est dans une optique de développement. C'est démontré que, la formation en classe, oui, c'est intéressant, mais ça ne devrait pas occuper une grande portion de notre développement. Mm-hmm. Que le développement le plus enrichissant, ça se fait à travers des projets, à travers de l'accomplissement, si on, mm-hmm, veut. Donc, je pense que des fois, on mélange un peu ça. T'sais, est-ce qu'on fixe des objectifs dans le but de développer nos gens?
Puis est-ce que c'est en lien avec les forces ou si les objectifs sont visent à améliorer des faiblesses aussi? Hein? Il y a tout l'aspect, oui, les forces versus les faiblesses, tout le débat autour du fait de vouloir faire des évaluations pour, un, la reconnaissance. Donc, on veut souligner les forces des gens, on veut miser sur les forces, être capable de les identifier, mais faire en sorte que les gens vont pouvoir davantage travailler dans des zones de force, ou au contraire, on veut identifier les pistes d'amélioration puis faire en sorte que les gens s'améliorent. Hein. Il y a un paquet de gens qui ne croient pas du tout à ça, le fait de souligner les faiblesses puis de
c'est comme démobilisant. Il y a un article que tu nous as partagé cette semaine, justement, Caroline, là-dessus. J'aurais peut-être envie de te demander d'en parler. Là. Je pense que c'est vraiment ça, là, tu sais, c'est de remettre en question la pertinence, mais la
valeur ajoutée ou en, ouais, tout cas l'impact de la rétroaction. Oui, en fait, pour moi, ça a été vraiment un article à la limite déstabilisant un peu parce que justement, on remettait un peu en question la rétroaction parce que ce qui disait, c'est que souvent, ça part de notre propre perception, mm-hmm, de nos biais, de notre vision de l'excellence ou du succès. Et que quelque part, d'une façon, on le sait, t'sais, d'une certaine façon, on le sait, tu sais, puis il donnait l'exemple, par exemple, des humoristes, tu sais, ou de toutes sortes de métiers, les humoristes ne sont pas tous drôles pour les mêmes raisons, n'utilisent pas la même recette ou la même formule, puis quand c'est le cas, ben, c'est plus drôle, dans le fond, là. Fait que ce qui est comme la vraie recette du succès, c'est de trouver ta propre recette à toi. Donc, quand tu parlais de la... Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont essentielles. Tu sais, il expliquait que, bon, il y a une méthodologie pour faire une prise de sang à un patient. Tu sais, il faut suivre, ouais, les étapes. Fait que je pense qu'il y a certaines choses qui sont qui sont...
Les lois, les tout ce qui est santé, sécurité. Tu sais, tu veux t'assurer que ça soit su et...
Exactement. Il y a certaines méthodologies qu'il faut suivre, mais qu'au-delà de ça, dans la façon d'y arriver, chacun a son style. Puis que la seule rétroaction qu'on serait en mesure de donner, c'est comment nous, on perçoit à travers nos yeux à nous. Donc, de dire, ben quand tu fais telle ou telle chose ou quand tu parles beaucoup dans telle rencontre, moi, ça me donne l'impression que telle chose. Mais ça veut pas nécessairement dire que cette perception-là, elle est généralisée. Puis après ça, ben la personne repart avec ça, elle peut y penser, ça se peut que ce soit justifié ou non, mais il remettait beaucoup en question.
Moi, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, parce que dans les recherches là, que j'avais faites par rapport à l'évaluation de la performance et tout ça, il y avait une recherche qui avait été faite, une étude qui avait été faite qui démontrait que les employés donnaient beaucoup plus de valeur à la rétroaction et au feedback constructif qui venait de leur gestionnaire et que la reconnaissance qu'ils souhaitaient l'avoir, surtout de la part de leurs collègues. Mais là, ce que j'entends de ce que vous me dites, c'est que finalement, on remet un peu en question le fait même de donner de la rétroaction. Donc, est-ce qu'on devrait en donner encore de la rétroaction? C'est un peu ça la question dans tout ça, parce que certaines études nous disent que les gens en veulent, qu'ils trouvent ça important. Dans d'autres cas, ça pourrait être plus démobilisant que d'autres choses.
J'ai l'impression que ce qui est déstabilisant dans l'article dont tu parles, puis dans les statistiques, puis on pourra creuser un peu là-dessus, mais c'est qu'on s'est toujours dit, OK, ça vaut-tu la peine de gérer la performance? Il y a des pour, il y a des contre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner du feedback. Puis il faut en donner beaucoup, puis il faut pas se voir juste une fois par année. Il faut que ça soit fait en temps réel, dans le quotidien. Puis là, ce que cet article-là vient de dire, c'est que il y a peut-être plus de conséquences négatives potentielles que de conséquences positives. Tu sais, je pense pas que c'est de dire c'est tout le temps négatif ou toujours positif. Par contre, c'est comme si la portée négative pouvait faire plus mal des fois même que ce qu'on peut aller chercher, entre autres par les biais de perception que la personne qui donne le feedback a. Fait que, tu sais, quelque chose de très concret, si tu es un gestionnaire un peu plus cartésien, qui n'est pas quelqu'un qui prend beaucoup de risques dans la vie, puis tu gères un employé qui est plus créatif, qui gère à repousser les limites, est-ce que en étant la personne qui l'évalue puis qui lui donne du feedback, tu vas vraiment lui donner des bons conseils, alors que dans l'organisation, on a besoin de plusieurs sortes de profils. On a besoin de gens plus cartésiens. On a besoin de gens qui sont plus créatifs. Est-ce que c'est contre-productif? Tu sais, il y a aussi l'aspect de recevoir du feedback négatif. C'est pas le fun. Est-ce que c'est mobilisant ou pas? Je pense qu'on peut en débattre. C'est le fun quand t'es dans un esprit d'ouverture, que c'est bien fait avec doigté, puis que toi, comme individu, tu veux t'améliorer. Mais est-ce que ça serait pas à la personne de dire « Hey, je veux ton opinion là-dessus » versus un processus formel? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose mais là-dedans.
C'est que souvent les employés vont dire « je veux du feedback, tu sais, je veux qu'on me donne du feedback », mais ce qu'ils disent pas souvent, c'est qu'entre parenthèses, je voudrais surtout du feedback positif. Fait que, tu sais, c'est-tu plus du feedback que les gens ont besoin ou de la reconnaissance, tu sais?
C'est intéressant parce que l'étude dont je vous parlais tout à l'heure disait exactement l'inverse, qui souhaitait davantage et qui valorisait davantage le feedback constructif qui venait de leur gestionnaire. Alors que le gestionnaire a plus tendance à donner habituellement du feedback, la reconnaissance. T'sais, c'est plus facile de donner la tape dans le dos.
Ça peut être comme bizarre ou pas senti, là. Des fois, tu sais, si tu te fais dire « bravo, je suis fière de ton travail », c'est pas super mobilisant versus « hey, j'ai aimé ça quand t'as fait tel truc, mais ce projet-là, moi, j'aurais fait tel autre truc », comme de donner des conseils là, ou du feedback constructif. Fait que j'ai l'impression qu'on mélange...
Qu'est-ce que vous en dites si quelque part, peut-être que ça dépend de l'individu. En fait, il n'y en a peut-être pas une réponse. Il y a peut-être des gens qui, tu sais, si je parle de moi, je suis quelqu'un de relativement perfectionniste. Donc, d'une certaine façon, même si le feedback est difficile, ça me permet de continuer à m'améliorer puis j'en ai besoin. Puis il y a peut-être d'autres personnes pour qui c'est plus difficile. Donc, tu sais, quelque part, ça revient peut-être à cette idée-là que peu importe ce qu'on fait autour de la de l'évaluation ou du feedback, je pense que là où on réussit à avoir de l'impact, c'est quand on est capable de s'adapter aux besoins, puis aux attentes, puis à la façon de le faire de la personne qui est assise en face de nous. Peut-être.
Ben, je pense que clairement, il faut s'adapter à l'employé et à ses besoins. Je pense que dans tout ça, il ne faut pas oublier les besoins organisationnels aussi. C'est pas parce que l'employé ne souhaite pas recevoir ou n'aime pas recevoir de feedback constructif qu'il ne faut pas non plus réaligner si jamais il y a des choses que la personne ne fait pas de la bonne façon ou qu'elle ne s'y prend pas de la façon optimale ou qu'il y a vraiment des trucs qui pourraient être faits de meilleure façon. Donc, je comprends qu'il faut l'adapter, le message, la façon de le livrer à chaque personne. En même temps, je ne pense pas qu'il faut oublier qu'on est là pour faire un travail aussi puis de faire le meilleur travail qu'on peut.
Moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est à quel point quand on est sur davantage sur mesure puis qu'on peut plus difficilement utiliser une recette, ça devient un travail plus complexe pour le gestionnaire. Puis c'est souvent là aussi où on se bute. Puis moi, je pense que les processus ou en tout cas les employés qui ont toujours été plus heureux de l'évaluation qu'ils ont reçue ou du feedback qu'ils reçoivent, c'est beaucoup souvent, je trouve, à cause des gestionnaires. Donc, tu sais, c'est souvent un grand facteur de succès là, des processus, c'est la qualité, le temps que les gestionnaires prennent pour faire ce puis leurs habiletés de gestion. Là.
C'est ça, fait que finalement, ça reviendrait à coacher les gens qui coachent les personnes dans l'organisation. C'est peut-être plus important que le processus comme tel. C'est plus la façon qu'on le fait, puis le doigté.
La façon de livrer les messages.
Oui, ça pourrait.
Il y a tout l'aspect de la fréquence là, qu'on a abordé aussi tout à l'heure. Je pense qu'on a dit qu'il y avait une tendance à donner du feedback plus fréquemment. Je pense que c'est important aussi de l'adapter un nouvel employé versus quelqu'un qui est là depuis très longtemps n'aura pas le même besoin en termes de fréquence. Donc, je pense que c'est tout naturel pour quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouveau poste ou dans une nouvelle organisation de souhaiter avoir du feedback rapidement après son arrivée, de ne pas attendre que ce soit le cycle annuel d'évaluation de la performance. Donc, ça, c'est un autre élément important à tenir compte.
Tout à fait.
Quelqu'un qui débute dans un nouveau rôle, notamment un rôle de gestion ou autre. Là,
exactement.
La force, c'est de sécuriser la personne. Est-ce que oui ou non, je réponds aux attentes? Il y a une recherche qui a été faite par Gartner, justement, sur les styles de gestionnaire par rapport à ça, justement, à donner de la rétroaction. Et essentiellement, il en identifiait 4 types. Celui que souvent dans les organisations, on va comme prescrire ou ce qu'on va demander au gestionnaire de faire, c'est le gestionnaire qui va donner de la rétroaction comme en temps réel, qui va toujours adresser les choses, qui va être très à l'affût de est-ce que c'était bien ou pas bien ce que tu as fait. Fait que ça, c'est un type de gestionnaire. Il y en a un autre que c'est un gestionnaire qui va être considéré un peu le chill leader, là. Fait que ce qu'on disait tantôt, là, qui va plutôt donner de la reconnaissance que de la vraie rétroaction. Et il y en a un autre que c'est plus le professeur qui va expliquer les choses, les procédures, comment faire les choses, mais sans nécessairement évaluer. Et puis l'autre, le quatrième, c'était le connecteur qui va plus être dans, bon ben moi, pour t'amener plus loin, je pense qu'il faut que tu ailles lire tel truc, parler à telle personne, qui va mettre l'employé finalement en contact avec un réseau de gens qui vont le développer. Puis ce que l'étude ressortait, c'est que contrairement à ce qu'on pense, le seul gestionnaire qui créait un effet négatif sur la performance, c'était celui qui était très présent dans le quotidien. Il l'appelle en anglais le « always on manager ». Donc, celui qui est très, très à l'affût puis qui est très, très présent pour les employés puis qui lui donne des outils dans le quotidien, ça faisait l'effet contraire et c'était le seul. C'est comme si les trois autres, c'est positif. Évidemment, celui qui est le plus positif qui génère le plus de performance, ça allait jusqu'à 26 % de plus de performance, c'était le connecteur. Mais celui qui était comme plus présent dans le quotidien, c'était, je pense que c'est quelque chose comme 8 % de baisse de performance quand on a un gestionnaire comme ça. Évidemment, après, ça dépend des personnalités des gens puis tout ça, mais je pense que de façon générale, ça vaut la peine de se remettre en question ce qu'on dit à nos gestionnaires puis les idées préconçues qu'on a sur le feedback, la rétroaction
rapide au quotidien, à tout moment. C'est ce que tu dis, là. Ça, c'est le bout qu'on remet en question. Ouais. Ouais. Quand tu parles du connecteur, peux-tu le détailler davantage? Celui qui semble avoir le meilleur.
Oui, mais en fait, c'est ça, c'est l'idée de reconnaître que comme gestionnaire, tu sais, un peu comme tantôt, on disait, si tu es un gestionnaire plus cartésien puis que tu as un employé qui est un peu plus créatif puis moins procédure, bien, c'est de reconnaître ça, de dire, tu sais, pour cet aspect-là, j'identifie cette force-là chez toi. Je connais telle autre personne dans l'organisation qui a un profil plus comme le tien. Pourquoi vous n'allez pas prendre un café ensemble ou pourquoi cette personne-là ne serait pas en charge de développer ça avec toi? Tu sais, un peu plus comme créer un réseau de mentors et d'identifier des occasions de développement parce que là, ça dépend toujours de la grosseur de l'entreprise, mais tu sais, souvent, quand tu as un rôle de gestion, tu es plus au fait des objectifs stratégiques, des projets qui s'en viennent. Donc, c'est plus facile d'identifier quelle personne dans ton équipe a ces forces-là ou ces intérêts-là de se développer. Puis tu mets les gens en contact, soit avec des opportunités de développement ou avec des gens finalement, donc sans tout prendre en charge sur tes épaules, c'est un peu juste d'être un catalyseur.
Ouais. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. En même temps, quand je pense à ce qu'on a parlé tout à l'heure, puis au fait que, d'une certaine façon, le succès ou l'excellence, ça peut prendre toutes sortes de saveurs, je me dis, ben, tu sais, c'est sûr que c'est toujours plus facile de mettre le gestionnaire dans une case ou de le nommer d'une certaine façon, mais je pense qu'il peut y avoir toutes sortes de styles de gestionnaires qui peuvent avoir peut-être un certain succès. Puis, j'ai l'impression que, en fait, ça dépend avec quel genre d'employé aussi.
Ça, c'est sûr.
Tu sais, moi, j'ai vécu avant une expérience où, quelque part, on choisissait un peu, d'une certaine façon, notre gestionnaire. Parce que je pense que la base, tu sais, de cette évaluation-là ou de la rétroaction, ça part de la confiance. Puis certaines, tu sais, dépendamment de ce qu'on valorise, de si on se sent en sécurité dans cette relation-là, il y a des gens qui vont valoriser davantage les connaissances ou la rigueur, mais vont se sentir plus confortables avec quelqu'un qui va lui apporter ces aspects-là. Donc, tu sais, je pense qu'il faut que la relation et la confiance soient là. Fait que peut-être que ça, en tout cas, je sais pas, je me dis... Je lance ça comme
ça. C'est un très bon point.
Moi, j'ai une question pour vous dans ce cas-là. Est-ce que ça doit être le gestionnaire qui fait l'évaluation?
Ben, je m'en allais là, justement. Tu sais, de dire, ben, peut-être que dans le fond, dans certains cas, c'est peut-être pas notre gestionnaire qui serait la meilleure personne pour, ou en tout cas, de nous transmettre cette information-là. Mmh. Ou
donner de la rétroaction.
Parce que c'est sûr que le gestionnaire, c'est toujours plus facile aussi de coacher des gens en qui on croit, nous, personnellement. Puis je pense que quand de l'autre côté, la personne a confiance aussi, elle va être beaucoup plus réceptive puis à l'écoute. Fait que il y a peut-être un petit côté là, autour de ce bon match-là d'employés, gestionnaires.
Oui, puis c'est un élément qui était ressorti dans les recherches que les employés vont attribuer beaucoup plus d'importance à l'évaluation qui va leur être faite. S'il y a plusieurs sources aussi d'informations, on a consulté plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans donner
360.
Exactement. Les 360, c'est peut-être un peu intense dans certains cas. On peut peut-être pas le faire à tout le monde dans tous les cas parce que c'est beaucoup de gens impliqués.
Des fois, ça peut avoir... C'est un couteau à double tranchant, là, le 360, qui est, dans le fond, demander de la rétroaction autant aux collègues qu'aux gestionnaires, les gestionnaires des autres départements, les subordonnés.
C'est lourd aussi, comme processus. Exactement. Mais peut-être d'impliquer 2-3 personnes plutôt que ça soit que le gestionnaire qui fait l'exercice de donner de la rétroaction. Je pense que ça peut être une autre des possibilités. Puis que l'employé soit impliqué aussi dans la démarche, c'est un autre point important que ça se fasse conjointement, hein, que ce soit par une auto-évaluation ou que la personne puisse arriver avec sa réflexion déjà un peu faite sur comment ça se passe jusqu'à maintenant, puis qu'il ait identifié les éléments sur lesquels peut-être il a envie de discuter ou de travailler. Je pense que c'est important aussi qu'il soit impliqué dans cet exercice-là. D'impliquer les employés aussi dans définir un petit peu leur selon leurs besoins, comment on devrait faire cet exercice-là. Tu sais, là, on en discute, là, mais c'est drôle parce qu'on en parlait, Caroline et moi, on veut faire cet exercice-là avec l'équipe. L'équipe grandit. On veut collaborer finalement en tant qu'équipe sur comment on va faire ça dans notre équipe à nous, donner de la rétroaction, tu sais, puis que ça puisse venir des gens dans l'équipe aussi, là, selon les besoins de chacune, comment est-ce qu'on s'y
prend?
Comment
on se définit, c'est quoi qui est important pour nous, qu'est-ce que... Ouais. C'est une très belle avenue de consulter les gens qui, ultimement, vont être les plus touchés par ce processus-là aussi.
Peut-être qu'après la rémunération à la carte, il y aura l'évaluation de rendement à la carte.
À la carte. Oui, sur mesure.
Moi, j'ai prédit l'évaluation à la carte.
Puis en conclusion, peut-être, j'aurais envie de rappeler l'importance de la simplicité aussi du processus. On a souvent des petites organisations qui vont nous demander de mettre en place ces outils-là. Puis ils s'imaginent déjà en partant quelque chose de très lourd, très gros, très dur à maintenir. Moi, ce que j'ai envie de peut-être rappeler à ce moment-là, c'est si c'est la première fois que vous le faites dans votre organisation, gardez ça simple, tu sais.
Même si c'est pas la première fois.
Et même si c'est pas la première fois, mais d'autant plus si c'est la première fois, si on veut s'assurer que ça se fasse, l'important, c'est de le faire, hein, je pense.
Tout à fait. Le processus est important, plus que le formulaire en soi, là. Ça pourrait être fait sur une napkin, que ça fonctionnerait quand même. Je pense que c'est plus la discussion qui est importante.
Excellent. Hey, je pense que ça conclut cet épisode, les filles. Merci énormément de votre collaboration, comme toujours. C'était super intéressant. Merci à nos auditeurs d'avoir été présents et on apprécie énormément votre écoute. Sarah, si les gens ont envie de nous suivre, où est-ce qu'ils peuvent nous trouver?
Il y a plusieurs endroits, Joël. Donc, premièrement, nous suivre sur Facebook. Nous suivre sur LinkedIn, souvent c'est là qu'on va partager nouveaux contenus, des articles aussi, parce qu'on fait le podcast, mais on a des articles aussi. Des fois, on a plein d'autres choses à partager. Il y a notre site web, évidemment, via conseil, où les gens peuvent aller sur notre blog, même nous faire des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Donc, commenter soit sur l'article directement sur le blog, ou même sur nos statuts dans les différentes plateformes et réseaux sociaux.
Oui, et donnez-nous des suggestions de thèmes si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier. Ça nous intéresse toujours d'avoir votre avis là-dessus.
Si vous n'êtes pas inscrit jusqu'à maintenant à la balado, on est aussi sur les plateformes plus traditionnelles de iTunes, Google Play ou des trucs dans, je suis plus à Apple, là, mais des trucs d'Android aussi, on est là. Donc, abonnez-vous pour qu'à chaque fois qu'on ait un épisode qui sorte, vous le receviez. Et donnez-nous même des étoiles si ça vous tente. Allez mettre un petit 5 étoiles. Nous, ça nous aide pour grossir l'auditoire. Ça nous aide dans le référencement.
Merci, Sarah. Merci, tout le monde. On se revoit dans 2 semaines.
Bye-bye. Bye.